Good morning.
Bonjour.
Today is National Faith
and Blue
Weekend.
C'est le week-end bleu et national.
And this event upholds the belief et that law enforcement and faith institutions
donc
are
cet événement
pillars of the community. When they work together,
explique comment les policiers sont les clés pour garder la paix dans le gouvernement. Et nous voulons élever le respect. Pasteur Jim et moi-même, nous sommes aumôniers dans la police, dans le département de la police à Baltimore. Et nous sommes heureux de pouvoir être disponibles pour eux, trouver des occasions et quand une occasion se présente, nous voulons partager l'amour.
Et
il y a beaucoup de situations et les situations sont uniques. Ils sont complètement différentes les unes des autres. Et c'est mon expérience ce matin. Je travaille avec plus de 50 officiers depuis plus de 5 ans. Ces officiers travaillent dur. Ce n'est pas un travail facile du tout d'être policier. Vous pouvez l'imaginer. Donc, vous avez vraiment un travail à faire, mais d'opérer à un niveau professionnel, ils ont dans leur cœur de protéger la communauté. Et j'ai demandé ce matin combien de fois, quand vous demandez à la police de venir, vous êtes heureux de les voir arriver. Donc, on a avec nous l'officier Baku, que j'ai déjà rencontré tellement de fois. Il est aussi
il est
un abonné à notre coffee shop aussi. Je peux dire à propos de Pasteur Baku, c'est qu'il aime son travail. Il le fait bien. Il s'occupe des gens. Il les aime. Et je peux le dire avec l'expérience.
Jim, you want to say anything? Then Jim? Okay.
Well, every time my brother speaks, you got something. Parle à son frère, Jim, Pasteur Jim. Tu veux dire quelque chose? Non. Et pasteur et policier Baku, donc moi je suis Baku. Merci. Je sais comment c'est de la folie d'être à l'extérieur et je suis tellement heureux d'être là ce matin, d'être avec des gens comme vous. Merci. Merci que vous soyez des supporters pour nous. C'est tellement rare de voir ça. Et je suis contente de voir que vous pensez d'une manière positive à nous. J'apprécie beaucoup. On ne vous le dit peut-être pas assez, mais on vous apprécie aussi beaucoup, beaucoup. Et Pasteur Jim, maintenant.
He's thanking you right now, but you can't hear it.
Il vous remercie maintenant, mais vous pouvez pas l'entendre.
So, just before we pray, yeah.
Juste avant que nous prions.
This man is
cet homme, c'est un homme de grande qualité. Ils prennent vraiment soin, lui et son équipe, des gens. Et on veut vous remercier aussi, vous, dans l'Église, parce qu'on le pense, on y travaille ensemble. C'est vrai que nous-mêmes, nous sommes aumôniers, mais avec vous, nous contribuons à les encourager. Qu'il puisse voir comment Dieu fait des miracles aussi dans la rue.
Et
donc, prions. Père, merci pour ce jour, Seigneur. Merci pour officier Baku, qui est un réel ami pour nous. Et on te prie, Seigneur, pour ce jour. On te prie pour toute la tension qu'il y a en ce moment partout dans notre pays. Nous te prions que les gens puissent se vraiment commencer à faire confiance à la police, recommencer. Et te prie pour la police de Baltimore et les 9 districts qu'il y a dans cette ville. On te prie pour la sécurité de leur famille, la sécurité de leur vie lorsqu'ils sont dans leurs actions. On te remercie. On te prie, Seigneur, que tu vas vraiment agir dans le policier, parmi les policiers. Merci pour ton amour qui nous couvre, qui nous aide à faire ce que tu as mis sur nos cœurs de faire. On te prie pour l'officier Hall qui est à l'extérieur, qui n'est pas venu ce matin, mais officier Dale, dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Chibeli.
We go.
I knew the officer was from Nigeria just by his last name. Et je savais que le policier était d'Afrique de l'Ouest. Il était assis à côté de moi, j'étais un peu nerveux. J'ai été moi-même en prison 9 fois pour de bonnes raisons. Je distribuais de la littérature. Mais pour l'offrande ce matin, on a eu un bâtiment en Ouganda et on avait besoin de clous, on avait besoin de 1000 clous pour finir le toit. Et un homme m'a dit, je voudrais aider, mais quel est le prochain projet dans la prochaine chose? Et je lui ai dit des clous. Et il m'a dit, j'ai besoin de à peu près 1000 dollars pour des clous. Et donc, il a téléphoné à quelqu'un pour qu'il vienne visiter le bâtiment. Et il a demandé à cette personne, vous avez besoin de clous ici, combien vous en avez besoin? On en a besoin pour à peu près entre 1000 et 1500 dollars. Et l'homme a rappelé et il lui a dit, bon, je vous écris un dollar de 1500 dollars parce que je crois que je peux vous faire confiance parce que les deux, vous m'avez dit le même prix. Et ça, ça paraît une histoire un peu simple, mais il a aidé après dans beaucoup d'autres projets. Il est devenu un fidèle donateur. Un fidèle donateur. Et alors que je pense à l'offrande ce matin, j'ai un peu de difficulté à me tenir. J'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose à cause de ce qui m'est arrivé, mais Dieu dit, vous devez vous appuyer de toutes vos forces sur Dieu, mais pas sur, ne pas s'appuyer sur combien elle est la facture d'électricité. Non, ne pas s'appuyer sur ça. Ne pas s'appuyer sur combien votre loyer. Non, ne pas s'appuyer non plus là-dessus. Et non pas s'appuyer sur ce qui se passe dans le pays, mais s'appuyer de tout son cœur.
Lean not. Stop the leaning.
sur Dieu, arrêter de s'appuyer, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais fais confiance à Dieu de tout ton cœur et reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera ton sentier. Faisons une belle offrande aujourd'hui. Merci Seigneur de nous aider, de nous apprendre à te faire confiance. Ne pas s'appuyer sur les choses, mais te fais confiance. Combien de clous on avait besoin? On en avait besoin des mille, pour $1,000. Dieu l'a fait. Et cette personne n'était même pas dans le ministère. Donc, Dieu peut faire les choses. Et dans le nom de Jésus, nous te bénissons ce matin pour l'offrande. Amen.
Shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house.
Let's put up Psalm 68 up on the
screen. En le regardant dans le psaume 68, au verset 6. C'est super d'être ici ce matin, d'être dans la famille. Voilà quelques pensées pour le commencement de notre message. Les anges font dans la famille, comme on le comprend, comme nous sommes, et les anges aussi sont dans la famille. Pardon, eux ne sont pas dans la famille, ils sont appelés ceux qui nous reçoivent. Ils sont dans le ciel, ils sont des esprits. Les anges ne sont pas des fils et des filles de Dieu, mais nous le sommes. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et est-ce que les anges ont été faits à l'image de Dieu? Non. Mais ils ont une pensée. Mais de la manière aussi, un chien a une pensée. Est-ce que les dauphins, les chevaux ont des pensées ou une pensée? Oui, mais ils ne sont pas des êtres humains. Est-ce que les anges ont des émotions? Oui. Est-ce qu'ils ont une volonté? Pourquoi est-ce qu'on dit que les anges ont des émotions? Parce que quand un de nous est sauvé, ils se réjouissent dans Luc 15. Ils se réjouissent quand nous sommes trouvés alors que nous étions perdus. Les anges se réjouissent. Ils ont des émotions. Ils ont une pensée parce que quand il est écrit que David avait la sagesse des anges de Dieu. Donc, ils ont des émotions, des pensées. Est-ce qu'ils ont une volonté? Est-ce que les anges ont une volonté? Comment nous pouvons le savoir? C'est qu'ils peuvent tomber du ciel. Un tiers des anges a pris la décision de suivre Satan, d'aller contre Dieu et de se rebeller contre Dieu à cause de Lucifer, l'archange. C'est lui qui dirigeait la rébellion. Et on voit ça dans Ésaïe 14, 28. Donc notre théologie nous enseigne sur la nature du monde que nous ne pouvons pas voir, les anges, les esprits. Ils semblent très similaires à nous, mais ils ne sont pas comme nous. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous avons un appel plus grand. Donc, dans Hébreux, quand vous venez à l'église, vous apprenez la théologie en étudiant la Bible. Est-ce que c'est pas chouette? S'asseoir aux pieds de Jésus. On est là, c'est plus important que le pupitre. C'est que tu une voix derrière vous une voix derrière vous que vous allez entendre. Vos enseignants sont devant, mais la voix vient de derrière vous. C'est Dieu. Et dans Hébreux 2, et je veux être très rapide là-dessus, au verset 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc j'espère que je ne vais pas oublier mon message. Donc, il dessine sur sa tablette, tout à fait en bas, il parle de bactéries, virus. Bon, non, ne mentionnons pas ce mot. Donc, je prie pour cette sœur dont le frère est à l'hôpital. Priez pour Mike. Et nous te prions maintenant, Seigneur, pour que tu t'occupes, que tu prennes soin maintenant de ce frère, alors qu'il est à l'hôpital, et nous te demandons de le secourir, de prendre soin de lui. C'est dans tes mains. Nous te prions pour mardi. Te prions pour, pardon, pour du réconfort dans son cœur et que tu lui fasses du bien pour ce temps. En nom de Jésus, amen. Donc, au-dessus de la terre, il y a un endroit pour des créatures plus qui sont, voilà, puis tout à fait en haut, il y a l'homme. Des créatures sur lesquelles l'homme a autorité. Et puis au-dessus de l'homme, il y a les anges. Dieu les a fait un peu plus au-dessus des hommes, mais pas pour longtemps. Au verset 7, tu as abaissé l'homme pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il était un peu plus inférieur aux anges parce qu'il a été fait de terre. Il a été fait de deux éléments. Il a été fait de l'esprit. Et on lui a donné une âme, mais tandis que les anges n'ont qu'un esprit. Et il a été fait un peu inférieur aux anges juste pour un temps. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, là maintenant, il trace un trait au-dessus des anges. Vous êtes au-dessus des anges. On n'est plus haut que les anges. C'est notre destinée. Mais à cause de notre corps mortel maintenant, et à cause de notre nature pécheresse, nous sommes comme sous une malédiction. Et c'est vrai qu'en étant comme cela, nous souffrons. Mais nous recevons aussi la grâce commune qui est donnée à tous, aux croyants et aux non-croyants. Mais si vous avez péché, vous pourriez aller directement en enfer dès le moment où vous désobéissez. Il aurait pu être que à ce moment-là, vous iriez en enfer. Mais quand les anges ont désobéi et qu'ils sont venus sur la terre, ils sont destinés maintenant à aller en enfer. Mais pour une saison, nous sommes sur la terre avec la grâce commune. Et c'est que pour 70 ans ou 80 ou 100, et vous mangez, vous regardez le ciel, vous regardez les animaux, vous étudiez, vous regardez, vous aimez et vous apprenez à propos de la création. Mais vous pourriez ne pas venir à Dieu. Dans Romains 1, 18, vous pourriez avoir la connaissance de Dieu, mais et Dieu, à cause de sa création, est visible. Les choses invisibles sont visibles à cause de la création. Quand vous voyez un oiseau dans le ciel, vous pourriez dire, peut-être il y a quelque chose de plus que le ciel en voyant cet oiseau. Peut-être il y a des anges. Quand vous voyez un cocon devenir un papillon, vous pouvez dire, il doit y avoir quelque chose de plus grand que cela. D'où ça vient? Et il y a dans le monde des milliers, si ce n'est pas des millions d'exemples du monde invisible et de la bonté de Dieu. Et cette bonté remplit dans le psaume 33 au verset 6, la bonté de Dieu qui remplit la terre. Et là, nous avons donc l'homme qui est légèrement inférieur aux anges pour une saison. Et nous voyons Jésus. Au verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et je dois expliquer ça rapidement. On voit que tout est sous l'homme. On peut discipliner des dauphins, on peut voyager avec des oiseaux, on peut comprendre les explications de Albert Einstein, on peut comprendre sur la lumière et comprendre tellement de choses. Et voyons que toutes ces choses sont sous nos pieds, mais il y a, tout n'est pas, comme par exemple, les virus ne sont pas toujours sous nos pieds. Ça pourrait me tuer. Un tsunami n'est pas sous mes pieds, puisque c'est comme aussi la mort n'est pas sous mes pieds. Je n'ai pas tout, mettre sous mes pieds, ça veut dire que j'aurai autorité, mais un tremblement de terre, beaucoup de choses dont nous pourrions parler, on ne les voit pas qu'ils sont sous nos pieds, mais on peut voir Jésus. Regardez, voir que Jésus, lui, a autorité sur toute chose. Tout est sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Est-ce que les virus sont sous ses pieds? Oui. Les orages, le vent, tout est sous son autorité parce qu'il est Dieu. Mais Jésus est un homme. Il était un homme, mais il est Dieu. Donc regardez sur notre petit croquis. Donc au-dessus des anges, il y a Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est en charge de tout. Donc, que Dieu vous ait attiré à lui et qu'il vous a placé en lui et qu'il vous a mis sur le trône, assis dans les lieux célestes avec lui, il vous a donné un statut qui est bien au-dessus de tout sur la terre. Donc, mais les gens peuvent être blessés quand ils sont blessés, troublés, et qu'ils sont en colère, qu'ils deviennent émotionnels, qu'ils cherchent la vengeance, ou qu'ils sont peut-être jaloux, qu'ils convoitent, ou qu'ils sont peut-être adultères, ou peut-être désireux. En tout cas, le monde est maudit, et la nature pécheresse est maudite. Et si je continue dans ces péchés, je peux souffrir et causer beaucoup de souffrance, beaucoup, beaucoup de dommages autour de moi. Juste dans mon monde, dans ma famille, je cause des dommages dans mon couple, juste à cause de ma nature pécheresse dans laquelle je vis, parce que ce monde a une influence destructive sur moi. Mais mon message ce matin est mieux que cela. C'est Romains 8. Et au verset 14. Mais je voulais dire ces choses pour avoir un contexte de ma prédication. Romains 8.
We didn't get to read that, but could they put that up on the screen just for 68? Is it
Romains 8, 68?
Did I say 7 or 6?
Pardon.
6. Thank you. 68, 6.
Romains 6.
God sets the solitary in families.
Dieu amène. Non, pardon, Hébreux 2, 9. Il amène ceux qui sont orphelins, il les amène. Pardon, c'est le psaume 68 au verset 6. Dieu amène les orphelins dans des familles. Psaume 68 au verset 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Nous avons entendu par rapport au ministère des orphelins dont Pasteur Chibeli prend soin en Inde avec Suzanne Silva qui prend soin de ceux qui n'ont ni père ni mère, qui les amène à l'orphelinat, dans ces maisons où il y a 10 enfants peut-être avec quelqu'un à la tête, et il y a quelqu'un de l'église qui s'occupe de cette maison, et les enfants ont un futur. Beaucoup d'entre eux ont vivent dans beaucoup de blessures dans leur cœur. J'ai rencontré un petit garçon en Inde qui était un de ces petits garçons sauvés par ces orphelinats. Il avait une jambe en plastique et il avait laissé cette jambe à la maison. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne portes pas cette jambe pour t'aider? Il a dit, parce que je ne veux pas que quelqu'un me la vole. C'est trop important pour moi. Quelle vie difficile des enfants peuvent avoir. Mais est-ce que Dieu prend un orphelin, une personne seule, et le met dans une famille? Oui. Et qu'est-ce que cela signifie? Dans un terme physiologique, on peut le voir dans la Bible, c'est l'adoption. Dans notre théologie, on a un mot qui est justification. Ça, la justification, c'est quand on a été sauvé, on est devenu 100% juste. Oh, bien sûr, on se dit, je suis pas 100% juste, mais quand vous croyez et faites confiance à Dieu dans votre cœur, vous croyez qu'il vous justifie. Il justifie l'impie. Il est dit dans Romains 5, trois phrases, nous étions sans force. Le deuxième mot, on était pécheurs. Deuxièmement, donc sans force, il est mort pour nous. Quand on était pécheurs, deuxièmement, il est mort pour nous. Et numéro trois, quand on était ennemis, il est mort pour nous. Et hier, je réalisais que ces trois choses s'intensifient. Sans force, au départ, sans force, puis un pécheur, c'est plus fort, et ennemi de Dieu, c'est encore plus fort. Et dans les trois cas, il est mort pour nous, pour nous rendre justes, pour nous déclarer justes, pour nous accepter dans sa famille. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous sauve par sa grâce quand nous étions sans force, quand nous étions un pécheur, quand nous étions ennemis de Dieu. Un ennemi, c'est fort. Si je dis « je suis un ennemi de Dieu », wow. Et j'avais l'habitude de dire ça. Même dans ma nature, même maintenant, dans ma nature, je suis ennemi de Dieu. Et je peux... C'est comme au fond de moi, je suis ennemi de Dieu dans ma nature. Ça arrive dans ma vie. Ça, j'ai péché, j'ai été en colère, j'ai été un lutteur, j'étais orgueilleux, j'étais ennemi de Dieu. Mais quand j'étais ennemi, il est mort pour moi. Dans le pire des cas, le pire scénario, il est mort pour moi.
Wow.
Quand j'étais ennemi, il m'a justifié. Donc je vais dire quelque chose parce que on est en train d'attraper quelque chose là. Il y a des gens parfois qui sont légalistes. Légaliste, ça veut dire la chose est que on reste sur l'attitude et être une personne juste. Et la justice est mort. Et plus sur le fait de se comparer avec d'autres, on se compare, oh moi je pourrais jamais être un ennemi de Dieu. Mais oui, tu l'es. Mais tu sais pas comment je suis humble et juste, je serais pas un ennemi de Dieu. Tu le sais pas toi-même comment tu pourrais l'être. Mais toi, que Dieu te mette dans une autre situation, tu vas vendre ta mère pour un dollar. Tu vas renier Dieu sous la pression. Dans la bonne circonstance, tu vas crier Barabbas, Barabbas, libérez Barabbas, crucifiez Christ. On est des ennemis de Dieu dans la vieille nature pécheresse et on ne le sait pas. Et si vous continuez de venir ici, vous allez voir que vous le comprenez très bien. Mais apprendre et à écouter de Dieu, apprendre la doctrine, apprendre à être établi dans la foi, et on ne va plus être un propre juste, un chrétien propre juste, mais un enfant de Dieu humble et reconnaissant qu'il nous a sauvés. Il aurait pu envoyer toute la race humaine en enfer en un moment. Il aurait pu le faire comme il a fait avec les anges. Ils ne sont pas encore en enfer, mais c'est là qu'ils vont. Ils sont tombés du ciel, comme Jésus disait, j'ai vu Lucifer tomber du ciel comme un éclair. Aussi, c'est rapide comment ça? C'est comme un éclair. Je pense que Dieu a donné du temps à Lucifer dans le temps, dans le ciel. Il lui a donné un processus à suivre où il aurait pu, ou peut-être il a pu mentir, répandre ses mensonges. Et c'est comme ça qu'il a pu rassembler du monde autour de lui. Il trafiquait contre Dieu dans le ciel. Dieu lui aurait donné du temps pour faire ça. Et puis, un beau jour, ça a été fini. Peut-être un éclair, et Dieu a dit, c'est fini. Et il était parti. Il était en dehors du ciel. Vous pouvez imaginer ça? Jésus a dit, je l'ai vu. J'étais là, je suis Dieu. J'ai vu ça. Des éclairs, comme un éclair tombé sur la terre. Et maintenant, il est sur la terre. Et nous sommes là. Nous l'avions suivi. Dieu nous a rachetés et nous a amenés dans sa famille. Et c'est notre texte aujourd'hui, c'est l'adoption. Et c'est dans Romains 8. Et nous regardons à cela dans Romains 8. Comme beaucoup sont conduits par l'Esprit de Dieu. Au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il n'y a pas de crainte, non. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père, Abba. Et le terme théologique est un effet que nous sommes maintenant dans la famille. Nous sommes dans la famille. Il est notre Père.
Donc,
est-ce que ce n'est pas comme lorsque nous avons été justifiés et régénérés, mais il y a une différence. Justifié, ça veut dire que vous êtes juste maintenant, mais ça ne veut pas dire que vous êtes encore dans la famille. Régénéré, ça veut dire que vous avez reçu l'Esprit qui vous donne une nouvelle nature, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans la famille. Tout comme les anges sont saints, ils sont des esprits, mais ils ne sont pas dans la famille. Mais vous êtes dans la famille. Nous sommes dans la famille. Il nous a adoptés. Et il a fait de nous, il est de nous, il est notre Père. Et cela veut dire beaucoup. Regardez le verset suivant. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit en nous vous dit, porte témoignage que vous êtes enfants de Dieu. Vous avez une relation unique avec Dieu que les anges n'ont pas. Les anges vont et viennent suivant les ordres de Dieu, mais c'est une relation différente qu'ils ont avec Dieu. Un homme déchu n'a pas de relation avec Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Mais le rejeton de Dieu
is not a child of God.
Celui qui est né simplement sur la terre, il est créature de Dieu, mais il n'est pas sauvé, il est perdu. Dieu n'est pas son Père. Est-ce qu'un homme qui n'est pas sauvé peut parler à Dieu et Dieu l'écoute? Oui, bien sûr. Dieu entend le cri du prisonnier. Dieu entend, Dieu est souverain, il peut entendre. Il est désireux de sauver, désireux de se montrer. Il veut amener quelqu'un dans sa famille à travers la nouvelle naissance, en croyant dans le fait de croire en Jésus-Christ. Mais croire en Jésus, c'est être adopté dans la famille et on reçoit un statut de famille. Il peut plus nous perdre, plus jamais. Il peut plus nous abandonner. Et maintenant, il a compassion de nous dans le psaume 103. S'il vous plaît, tournez là. Dans le psaume 103. Et je vais aller dans certains de ces psaumes et après, je vais arrêter là. Mais c'est tellement précieux, tellement incroyable. Au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants. Il prend soin. Pasteur Chibeli disait hier un très beau verset de Jean 20 au verset 1 et 2 que Jésus s'est révélé lui-même à ses disciples après. Il s'est révélé de cette manière et il a pris ces mots de cette manière et il a prêché là-dessus pour expliquer. Et c'est vraiment resté de cette manière avec nous. Quand Dieu s'est révélé, il était peut-être très fort. C'est un être puissant. Quand Jean a vu, Jean a été comme mort à ses pieds. Et quand il était au bord de la mer de Galilée, alors qu'il venait d'être ressuscité, il s'est révélé à Pierre et à Thomas. Avant cela, à Pierre et aux disciples, en leur faisant un déjeuner, pour dire à Pierre, en disant à Pierre, aussi jette ton filet de l'autre côté, en disant ces mots, est-ce que tu m'aimes? Il s'est révélé à ses disciples après de cette manière, une manière douce, une manière aimante, pénétrante, comme un Père éternel, parce que nous sommes de sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'il a compassion de nous? Au verset 13, il a compassion de ceux qui le craignent, comme un père a compassion de ses enfants, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est ce qui a changé nos vies. Quand on était avec les pasteurs ces deux derniers jours, on a pu voir le principe de la famille. On a vu la famille, les connexions avec des frères. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps et puis on partageait les uns les autres et on a pu voir la famille et on avait le même père. Et nous sommes remplis de miséricorde quand c'est comme ça. Nous sommes gracieux, nous sommes encouragés. Quand nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, dans Romains 8 au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai une histoire là à propos d'une fille arménienne. Elle et son frère ont été attaqués par des Turcs.
in Turkey. I don't know where it was.
C'était en Turquie.
We have a Turkish brother here.
On a un frère turc ici dans l'école biblique.
Don't say any of this to offend.
Je dis rien pour offenser quelqu'un, que vous soyez turc ou américain ou chinois ou russe ou allemand, peu importe. On a tous ces choses dans nos pays. Mais ce frère a été tué. Elle s'est échappée en grimpant sur un mur. Le frère a été brutalement tué devant ses yeux. C'était une infirmière. Plus tard, alors qu'elle était dans l'hôpital, elle a reconnu un de ses patients comme celui qui avait tué son frère. Son premier sentiment était la vengeance. Mais le soldat était très malade. Il était entre la vie et la mort. Et elle savait que si elle le négligeait, il allait mourir et personne ne saurait rien. Mais sa vie était dans ses mains, à elle. Mais au lieu de se venger, elle a décidé, à cause du nom de Christ, de lui pardonner. Elle a lutté pour sa vie. Elle s'en est occupée jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. L'adoption veut dire que vous êtes conduit par l'Esprit. Vous avez le statut d'un membre de famille, et ce que Dieu fait, c'est qu'il vous donne l'Esprit, et vous avez décidé en tant que membre de famille d'être dirigé par l'Esprit. Serez-vous conduit dans ce cas pour pardonner? Non, je ne veux pas pardonner. Quelqu'un pourrait dire ça. Je veux me venger. Bon, vous allez perdre le privilège de ce que vous avez. Vous avez le privilège d'être comme Dieu. Le privilège d'avoir le Saint-Esprit qui vous conduit, d'être comme Dieu, qui pardonne. Donc elle lui a pardonné. Elle a lutté pour sa vie. Écoutez cela. Il a été en convalescence et elle lui a raconté l'histoire et le soldat l'a regardé ébahi. Et pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir quand tu m'avais dans tes mains? Elle a dit, je ne pouvais pas parce que je suis chrétien. Et mon propre maître a pardonné à ceux qui l'ont crucifié et moi je devais faire la même chose pour son nom. Alors, le Turc a dit, voilà ce qui veut dire d'être chrétien, donc moi je veux le devenir aussi. Vous pouvez être très amer, mais à cause de son nom, vous pouvez pardonner. Combien sommes-nous dirigés par l'Esprit? Sommes-nous dirigés à le glorifier, numéro 2? Sommes-nous prêts à rentrer dans son plan parfait, divin, et le glorifier? Vous vivez pourquoi? Pour glorifier pour Dieu. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis juste en train d'enseigner mes enfants. Je travaille à la station d'essence. Mais nous pouvons glorifier Dieu dans ce que nous faisons. On peut être en train de servir, donner de l'essence dans une station, mais on peut le faire pour la gloire de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Et dans cette manière de penser, ça peut nous aider dans les plus petites choses. Faire ce que Dieu nous dit dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Pas plus tard, quand nous serons sur un champ de mission, ou quand nous ferons des choses, des grandes choses, ou quand plus tard dans la vie, quand on va enfin se retrouver. Non, vous n'avez pas besoin de vous retrouver. Vous pouvez être dirigé par l'Esprit maintenant. Dieu sait qui vous êtes. Et vous pouvez vous retrouver en étant dirigé par Dieu et être ébahi peut-être, parce que, comme David disait, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. D'être dans la famille, c'est d'être plus haut, sur le rocher, adopté. On est ses enfants, conduits par son esprit. Et numéro 3, on peut être dirigé par son esprit, par l'esprit de Dieu, comme Teddy Roosevelt, un de nos présidents, l'a dit, d'aller à l'église. Oh, si on avait un président aujourd'hui qui disait, qui enseignait les gens de son pays à aller à l'église, ce serait fantastique. Mais s'il ne le dit pas, c'est pas ça qui va enseigner, qui va empêcher le Saint-Esprit de nous le dire encore. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la communion. Le Saint-Esprit vous conduit. Je te conduis dans ma volonté. Je te conduis dans le fait de faire des bonnes décisions. On a entendu un bon message de pasteur du Chili l'autre jour il nous parlait dans le livre de Tite. Dieu ne peut pas, Tite 1:2, Dieu ne peut pas mentir. Mais les dieux païens étaient des menteurs. Et si nous suivons les dieux païens, nous deviendrons des menteurs. Parce que vous êtes comme le dieu que vous adorez. Si votre dieu, comme Zeus avant et Jupiter, ils avaient des dieux païens et c'était des menteurs. Et les gens étaient des menteurs. Et c'est écrit dans Tite 1:2, les gens de Crète ont des ventres paresseux et ils sont menteurs. Mais Paul a dit à Timothée, mais prêche la vérité et tu seras, tu vas dire la vérité dans la culture. Quand le monde ment, nous, on dit la vérité. Quand il y a des mondes dans le monde académique, on ne peut pas accepter cela. Je ne peux pas mentir, je dois dire la vérité. Quand cet enseignant a dit dans cette école, je ne peux pas mentir, une fille est une fille, un garçon est un garçon, dans ma religion, je ne suis pas permise de mentir. Donc ils l'ont rejeté, ils l'ont enlevé de l'école. Dans quelle culture sommes-nous? Il est allé, il a été au tribunal, il s'est plaint, il a porté plainte, et ils l'ont remis dans son école. Avez-vous des tripes? Êtes-vous rempli de l'esprit? Avez-vous du courage? Est-ce que vous pouvez aller être comme ce petit garçon qui veut s'infiltrer dans le camp de l'ennemi. Et nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Et le petit prend ses gants, il met ses gants et il s'infiltre dans le camp ennemi. Nous devons être des gens remplis de l'esprit dans l'âge dans lequel nous vivons. Et si je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si tu peux pas, si tu n'as pas le feu, si tu n'as pas des convictions, tu vas t'arrêter comme beaucoup d'églises ont fermé parce qu'elles n'ont pas eu le courage de se tenir. On ne peut pas s'arrêter de s'assembler dans Hébreux 10. Je ne peux pas arrêter de me nourrir de sa parole. Je veux être conduite par l'Esprit. Et il nous conduit dans la communion avec les uns et les autres. Dans les temps communistes, quand nous vivions en Finlande, nous allions en Union soviétique et on voyait les gens sous le communisme qui se réunissaient dans des rayons de prière dans cette maison. Ils avaient des journées entières de prière et on se mettait à genoux. Et on était là, dans cette maison, il y avait beaucoup de gens, je crois que c'était des baptistes, et on priait. Et il y avait tous les enfants de Dieu, et on priait. Et ils étaient tous là toute la journée. Nous, on était là que pour une ou deux heures, mais Quand vous êtes sous la pression et que vous ne pouvez pas vous rencontrer, vous continuez de vous rencontrer. Si vous perdez votre travail, si vous rentrez dans des problèmes avec les autorités, ayez des convictions. Je ne veux pas rentrer dans des luttes, mais je veux être conduit par l'Esprit parce que je suis dans la famille de Dieu et je veux devenir comme Christ, comme Jésus. Jésus avait quelque chose à dire. Il ne cherchait pas la lutte, mais c'est pour ça qu'ils l'ont écrasé. C'est pour ça qu'ils l'ont fait taire. Ils l'ont fait taire. Mais c'est difficile de lutter contre Dieu. Comment aller contre la Bible? La Bible parle. C'est comment aller contre l'Esprit de Dieu. Et en 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts et il est haut et exalté par son Père. Il est mis sur le trône et il n'y a plus rien, plus personne qui peut dire quelque chose. Et nous sommes son Église, nous sommes comme lui. Et soyez habitués à cette façon de penser. Ayez une relation avec Dieu, soyez dirigés par l'Esprit. Et peut-être la capacité est au-delà peut-être de ce que vous êtes vous-même. Mais allez-y, regardez ce que Dieu va faire. Parce que nous sommes adoptés. Donc, laissons les mots un peu rudes de côté, mais maintenant, regardons l'esprit de Jézabel. Tournez-vous vers votre voisin et lui dites, je vais faire un test. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit de Jézabel? Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit de Jézabel? Qu'est-ce que tu penses que c'est? La Bible dit que Jézabel avait du make-up, elle avait du maquillage, elle avait tous ses cheveux faits, et quand j'ai eu à regarder celle qui était à sa fenêtre, 3 des eunuques étaient là, on regardait par la fenêtre, et Jéhu leur a dit, jetez-la par la fenêtre, et ça a été fini pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Elle séduisait Achab. Elle était forte, elle était puissante. L'esprit de Jézabel, c'était une femme. Elle était puissante. Elle a été utilisée par le diable. Elle a fait beaucoup, beaucoup de dommages en Israël. Peut-être pour vous et moi, ça pourrait être une application. Il y a peut-être une femme qui peut me séduire. Il y a peut-être des choses dans ma vie vers lesquelles je suis attiré, comme une attraction. Vous savez, je suis comme une somnambule là. J'ai les mains en avant et je suis attiré vers quelque chose. Elle avait une puissance sur l'homme. Il y a peut-être quelque chose qui est dans ce monde qui m'attire. Et vous savez, je ne me fais pas confiance. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais je ne fais pas confiance à l'esprit de Jézabel. Et pourtant, c'est réel. Quelqu'un peut mentir au Saint-Esprit. Quelqu'un peut laisser son mariage. Un jour, j'ai conseillé un homme. Je lui ai dit, si tu vas de ce sens, tu vas perdre ton mariage, ta femme, ton église, ta famille, pour cette femme envers laquelle tu es attiré. Et il a dit, je le sais, mais je suis décidé. Et tu es prêt à tout perdre pour cette femme? Il a dit oui. Et il l'a fait. Wow. De quoi parlons-nous? Nous avons un esprit d'adoption avec lequel nous sommes connectés avec notre Père Céleste. Et notre Père Céleste nous conduit. Et je peux marcher loin, m'éloigner de Jézabel. Mais je peux m'écarter d'elle. Je peux m'écarter de la pornographie. Je peux m'écarter d'un business criminel. Vous savez que vous ne devriez pas être impliqué là-dedans et vous n'arrivez pas à faire autre chose. Mais à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont enfants de Dieu, pas l'esprit de peur, mais un esprit de liberté dans lequel nous louons Dieu, un esprit qui a de la joie, un esprit qui a des définitions et qui croit dans son Dieu, parce que Dieu nous a donné à sa famille beaucoup de dons, beaucoup de bénédictions. Et je m'arrête avec ça. Je vais me répéter juste ça. Dieu a donné à sa famille beaucoup de dons, des bénédictions, beaucoup de dons matériels, des bénédictions qui se sont passées dans nos vies parce que nous sommes dans sa famille. Dieu nous veut bénis. Il veut que nous soyons bénis, qu'on soit réconfortés, qu'on soit protégés. Et il va s'occuper de ceux qui sont solitaires, pas seulement des orphelins, mais des gens qui sont sans famille, qui n'ont pas de maison, qui sont seuls, qui peut-être sont en des difficultés psychologiques, des gens qui sont tout seuls. Il va les mettre dans des familles parce qu'il aime la famille. La famille de Noé est rentrée dans l'arche. Toute la famille est rentrée dans l'arche. Et la famille de Noé. Dieu aime la famille. Toute la famille du centenier, du gardien de la prison, a été sauvée. Toute sa famille. Notre famille spirituelle, Dieu a beaucoup pour nous. Et il va faire ces trois choses-là. Pardonner. On aura un plan divin. Et comme le président l'avait dit, on va à l'église et il va me garder du mal. Il va me garder de l'esprit de Jézabel. Et c'est tout. Ok? Amen. Oh Seigneur, merci pour ces mots. Merci pour l'assemblée. On apprend à être dans ta famille, à être aimé, à continuellement être aimé. Dirige-nous, Seigneur, infiltre au milieu de nous et viens dans ces endroits où les gens ont besoin d'entendre ta vérité dans ce monde, Seigneur. Et aide-les, Seigneur, défie-les d'écouter, de réfléchir, et de dire, je ne crois pas à ce qu'on m'enseigne dans ce monde. Je ne veux pas lutter avec vous, mais je veux rester tranquille et croire que nous ne devrions pas penser de cette manière dans ce monde. Je veux être réel comme Dieu. Peut-être on va rentrer dans beaucoup de problèmes à cause de la parole, mais ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas reçu Christ ce matin, je fais cette invitation pour vous. Recevez Christ comme votre sauveur. Croyez en lui. Faites-lui confiance. Dites maintenant, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te veux dans ma vie. Change-moi. Dirige-moi. Donne-moi faim et soif de ta parole. Je suis avec ta famille. Donne-moi le désir de te connaître. Mets dans mon cœur que je suis un enfant de Dieu et que je crois en toi. Aide-moi, Seigneur, et je le prie dans ton nom. Aide-moi à prier. Aide-moi à t'appeler parce que je veux te faire confiance. Je veux m'appuyer sur toi dans toutes les situations de ma vie. Je suis ton enfant par la grâce à travers Christ. Amen.